Bonsoir. Pour cette seconde séance de la Société de philosophie de Bordeaux, nous recevons aujourd'hui Paul Rateau à l'occasion du tricentenaire de la mort de Leibniz. Et Arnaud Lalanne sera le modérateur de cette conférence.
Merci Francis pour cette introduction, cette présentation. Donc, je tenais à remercier la librairie Mola pour son accueil, la Société de philosophie de Bordeaux pour l'organisation de cette rencontre, et donc il nous a permis d'avoir le plaisir d'accueillir et d'écouter Paul Rateau, qui vient présenter son dernier ouvrage, Leibniz est le meilleur des mondes possibles, publié aux éditions Classique Garnier. Paul Rateau est maître de conférences à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, normalien, agrégé, docteur. Sa thèse a été publiée en 2008 aux éditions Honoré Champion. Le titre est « La question du mal chez Leibniz, fondement et élaboration de la théodicée ». Et donc, il sera question dans cette conférence, présentation du livre, mais aussi conférence, de la théodicée précisément, qu'on mettra en lien avec le meilleur des mondes possibles. Et comme l'a rappelé Francis Lippa tout à l'heure, l'intervention de Paul Rateau se fait aussi dans le cadre des manifestations pour le tricentenaire de la mort de Leibniz. Et donc Paul Rateau sera à nouveau présent pour un colloque qui se tient organisé donc par le labo SPH de l'Université Bordeaux-Montaigne, du département de philosophie, et qui se tiendra le vendredi 25 novembre à la salle Jean Borde de la Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine, sur le campus. Et Paul Rateau interviendra l'après-midi de 15h15 à 16h sur la question « Le principe de raison et les preuves de l'existence de Dieu ». Donc vous trouverez le détail du programme de ce colloque pour le tricentenaire de la mort de Leibniz, intitulé Principia Rationis, les principes de la raison dans la pensée de Leibniz, donc vendredi 25 et samedi 26 novembre, donc sur le campus le vendredi, le soir du 25 au Goethe-Institut à Bordeaux et le 26 à la bibliothèque municipale Mériadec. Alors, je vous disais que la présentation de Paul Rateau ce soir était consacrée à la théodicée. En tout cas, je cite le titre « Les enjeux théoriques et pratiques de la théodicée de Leibniz ». Mais nous verrons dans les questions que vous pourrez poser après sa présentation que ceci est lié, bien entendu, au contenu du dernier ouvrage de Paul Rateau sur le meilleur des mondes possibles, dont les quatre parties traitent justement toutes les questions liées, au fondement de cette théodicée. Qu'est-ce que le meilleur des mondes possible, tout d'abord, les fondements théoriques. La deuxième partie sur la question du progrès, le meilleur exclut-il le progrès. La troisième partie, le royaume des esprits, et nous verrons en quoi cette définition des esprits est fondamentale pour bien comprendre cette liaison théorique. Et dans la quatrième partie, agir dans le meilleur monde possible. Donc nous développerons aussi cette question, cette dimension pratique et de l'agir leibnizien. Et enfin, il y a un appendice que vous découvrirez en achetant le livre sur l'optimisme ou la notion d'optimisme après Leibniz, puisque ce terme a été défini, Paul le rappellera sûrement, par les jésuites de Trévoux en 1737, donc, et la postérité de cette formule, bien sûr, fera débat sûrement. Donc, je laisse maintenant la parole à Paul pour sa présentation, les enjeux théoriques et pratiques de la théodicée de Leibniz.
Merci beaucoup, Arnaud. Bonsoir à tous et merci également à la Société de philosophie de Bordeaux de m'accueillir, à la librairie Mola également. J'avais annoncé un premier rendez-vous au mois de mars, mais j'ai été empêché. Et donc, je suis ravi de que la librairie Mola ne m'en ait pas trop voulu de cette absence. Et il m'est permis de venir présenter ce livre devant vous ce soir. Alors, ce livre, c'est en fait un recueil d'articles, mais qui ont été déjà pensés comme faisant partie d'un livre, comme tel. Parce que ce qui, moi, m'a intéressé dans Leibniz, c'est d'abord la question du mal, puisque c'est au fond la thèse leibnizienne, enfin l'explication leibnizienne du mal qui m'a d'abord intéressé, et ce qui a été l'objet de ma thèse de doctorat. Et en travaillant sur cette question du mal, dont je vais vous parler un petit peu plus en détail dans un instant, c'est au fond cette thèse un peu bizarre de l'affirmation leibnizienne de l'existence du meilleur des mondes possibles, que notre monde est le meilleur des mondes possibles. Bon, ce qui est quand même une thèse assez audacieuse, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui a été, comme vous le savez, raillée par Voltaire dans un conte célèbre, Candide, ou de l'optimisme, qui se moque de la thèse de Leibniz, pas seulement en fait, parce qu'il y a d'autres auteurs que Leibniz qui sont visés par Voltaire, et notamment un auteur anglais qui s'appelle Alexander Pope. Pope, Leibniz, Wolf, bon, des auteurs comme ça, qui sont mis un peu dans le même panier et qui sont ridiculisés par Voltaire. Et donc, si vous voulez, y a, pour un lecteur français, ce n'est pas tout à fait la même chose pour un lecteur allemand ou pour un lecteur anglais. Mais un lecteur français qui connaît d'abord Voltaire avant de connaître Leibniz, entrer dans Leibniz en connaissant d'abord Voltaire, ça pose un certain obstacle, si je puis dire, dans la mesure où on a en tête les railleries de Voltaire à l'égard de cette thèse selon laquelle notre monde est le meilleur des mondes possibles. Bon. Alors, donc il faut franchir cet obstacle. C'est un peu, pour reprendre une expression de Bachelard, c'est notre obstacle épistémologique, nous leibniziens. C'est-à-dire comment aborder cette thèse pour elle-même. En se disant que Leibniz est l'un des esprits les plus puissants du XVIIe siècle et de ce début du XVIIIe siècle. Et donc, il est évidemment impossible que Leibniz ait pensé que tout dans notre monde allait bien, que tout dans notre monde était bon, était bien. Certainement pas. Alors, non seulement parce que Leibniz est un esprit d'une très grande envergure, mais aussi parce que c'est quelqu'un qui a eu une activité dans le monde, c'est-à-dire comme conseiller, comme diplomate, comme également grand voyageur. Il a une très fine connaissance du monde, hein, et de ses affaires, et donc du mal qui s'y trouve. Hein. Il a vécu une époque qui n'est pas une période facile de l'histoire européenne, de l'histoire allemande. Alors lui, il n'a pas connu comme tel la guerre de 30 ans, mais il a vu les conséquences désastreuses de cette guerre, hein, c'est-à-dire la famine, les destructions, la misère. Bon. Donc c'est quelqu'un de très averti à l'égard de la situation du monde concret, si je puis dire. Et donc, il est évidemment impossible soutenir que derrière cette thèse, il y aurait quelque chose comme un aveuglement, un aveuglement à l'égard de la réalité des mondes et dans l'acuité de ces mots, l'intensité de ces mots sous toutes ses formes dans le monde. Et donc, ce qui m'a intéressé, c'est au fond de se demander, compte tenu de ce que l'on sait de Leibniz, de ce que je viens de vous dire, qu'est-ce que ça veut dire, au fond, d'affirmer une telle thèse? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut forcément dire autre chose que affirmer que, comme disait le pangloss de Voltaire dans Candide, que tout va pour le mieux, hein, ou que tout est bien. Bon. Ça veut dire autre chose. Ça veut dire autre chose, et au fond, ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est qu'il faut décomposer cette thèse. Il faut décomposer cette thèse selon laquelle notre monde est le meilleur des mondes possibles, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un monde, ce qui est l'objet d'un chapitre. Qu'est-ce que ça veut dire meilleur, hein, et quel est ce monde par rapport à d'autres mondes possibles? Parce que Leibniz défend la thèse selon laquelle il y a une infinité d'autres mondes possibles. Ce que fait Dieu, c'est qu'il en choisit un. Il n'y en a qu'un qui existe. Hein. Mais il y en avait une infinité d'autres possibles, et ce n'est pas très difficile à imaginer à quoi ils peuvent ressembler. Il suffit au fond de penser à un événement différent. C'est-à-dire, vous prenez un événement de notre monde et vous pensez que cet événement se passe autrement. Et là, vous avez, si vous voulez, une autre trajectoire. Hein, pensez à une élection et le résultat de cette élection donne autre chose que ce qui s'est passé dans notre monde. Je vous laisse imaginer ce que ça pourrait donner. Et donc, cet événement différent donne une autre série de choses possibles. Et ainsi de suite. Donc vous avez, c'est pour ça que vous avez une infinité de mondes possibles. Donc on peut penser ces mondes possibles à partir de notre monde. Vous pensez à un événement différent, un événement qui n'a pas lieu, ou un événement qui arrive dont le résultat est différent, ça vous fait un autre monde, ou d'autres êtres que ceux que nous connaissons. Et donc, compte tenu de cette infinité des mondes possibles, il est bien clair que pour Leibniz, parmi ces mondes possibles, il y a un monde dans lequel il n'y a aucun mal. Bien sûr qu'on peut, parfaitement concevoir un monde, hein, c'est ce qu'il dit dans la Théodicée, imaginons un monde sans péché, il est dans un cadre évidemment qui est celui du christianisme, un monde où Adam ne pêche pas, et pourquoi pas un monde dans lequel toutes les créatures humaines sont heureuses, tous les esprits sont heureux. Et bon. Eh bien, Leibniz s'affirme, imaginez même n'importe quelle utopie, dit-il, n'importe quelle utopie merveilleuse que les romanciers ou les philosophes peuvent bien concevoir, peuvent bien forger, elle est possible, et pourtant, c'est pas ça que Dieu a choisi. Il a choisi notre monde, et pas un monde sans mal. Donc ça veut dire que la présence du mal dans le monde a une fonction, a un rôle déterminé, et que surtout, meilleur ne veut pas dire bien. C'est ça surtout. C'est-à-dire qu'au fond, le meilleur, c'est pas la somme de tous les biens. C'est pas le meilleur des mondes possibles, et c'est pas le monde dans lequel il y a le plus, il y a la somme de biens la plus importante. C'est autre chose, c'est un certain rapport entre le bien et le mal. Et donc, ce que j'essaie de travailler dans ce livre, c'est la notion de meilleur par opposition à celle de bien, et celle de monde par rapport à celle de monde possible, cette infinité des mondes possibles, et également de penser ce que c'est qu'un monde. Qu'est-ce que c'est qu'un monde? Il y a le monde, c'est plus que ce que nous en connaissons, nous. La petite connaissance très partielle que nous en avons. Qu'est-ce que c'est que le monde? C'est ce que Leibniz dit au paragraphe 8 de la Théodicée. Le monde, c'est l'ensemble, c'est la suite de toutes les choses, de tous les événements, de tous les êtres qui existent dans tous les temps et dans tous les lieux. Autrement dit, le monde qui est déclaré le meilleur, ce n'est pas ce que nous voyons dans la portion de vie qui nous est attribuée. C'est l'ensemble de tous les lieux et de tous les temps et de tous les êtres qui habitent dans ce monde. C'est-à-dire, c'est quelque chose d'infini dont évidemment, nous n'avons qu'une connaissance extrêmement, extrêmement faible, extrêmement petite. Donc, dire que notre monde est le meilleur des mondes possibles, ce n'est pas dire qu'à l'instant donné, notre monde, enfin, ce que nous en voyons, est le meilleur. Il n'est pas le meilleur. Il n'est pas le meilleur. Ce qui est le meilleur, c'est l'ensemble, c'est l'universalité de toutes les choses, dans tous les temps et dans tous les lieux. Donc il ne faut pas conclure de la thèse selon laquelle notre monde est le meilleur des mondes possibles à une thèse erronée qui serait de penser que chaque moment du monde ou chaque partie du monde est la meilleure. Elle n'est pas du tout la meilleure. Pas du tout la meilleure. Ou elle n'est pas forcément la meilleure. Vous prenez n'importe quel événement dramatique qui se produit, à la limite, dira que cet événement dramatique est un mal, authentiquement un mal, et ce n'est pas parce que ce mal arrive dans le meilleur des mondes possibles qu'il devient un bien par là même. Leibniz n'a jamais défendu une telle quelque chose d'aussi absurde. Donc ça oblige évidemment complètement à revoir ces notions de meilleur et ces notions de monde. Et également de penser, alors sur quoi je ne vais pas revenir, enfin je ne vais pas avoir le temps de développer, mais la question de savoir aussi, c'est-à-dire affirmer que notre monde est le meilleur des mondes possibles, ce n'est pas exclure le progrès de ce monde, puisque je vous dis, le monde pris à un moment donné, dans une de ses parties ou à un moment donné, n'est pas le meilleur en soi. C'est pris dans toute son histoire. Ça veut dire que le monde est susceptible de progrès. Alors Leibniz ne tranche pas véritablement sur la question de savoir si est-ce que l'univers progresse, est-ce qu'il... Alors ce qui est sûr, c'est que selon lui, il ne régresse pas. Le monde va toujours vers du meilleur. Mais va toujours vers du meilleur. En tout cas, il peut soit aller vers le meilleur, soit un progrès ascendant, soit stagner en perfection au niveau général, mais au niveau des parties, qu'il y ait, quand l'une progresse, l'autre régresse. Mais qu'au total, globalement, nous avons la même quantité de perfection. Donc, il y a un texte tout à fait extraordinaire de Leibniz sur cette question du progrès, que je traduis dans le texte, où il envisage différents modèles de progrès possibles. C'est-à-dire soit un progrès général du monde, c'est-à-dire le monde entier à chaque état, à chaque moment, va de mieux en mieux, hein, gagne en perfection, ou bien la perfection est identique d'un moment à l'autre, le monde pris dans sa totalité, mais entre les parties, il y a une sorte d'échange. Hein, quand il y a une partie qui progresse, il y en a une autre qui régresse. Et puis, donc vous avez au total toujours la même somme de perfection, même si dans les parties, il y a une différence. Alors, je vais revenir sur quelques points dans mon exposé, notamment davantage sur la question du mal. Le dernier point que je voudrais aborder dans ce propos liminaire, c'est la question que Arnaud évoquait, c'est la question de l'agir, de la morale en fait. De la morale, bon, pas tellement de la politique parce que j'ai pas, ça aurait été trop long, mais au fond aussi la question que pose cette thèse, qui m'a intéressé, j'avais à cœur d'éclaircir, d'expliciter. La thèse du meilleur des mondes possibles, c'est qu'est-ce qu'on fait dans ce monde, dans ce meilleur des mondes possibles? Qu'est-ce qu'on fait? Bon. Qu'est-ce que suscite au regard de l'action, la connaissance que nous habitons le meilleur des mondes possibles? D'une certaine façon, c'est une doctrine qui, loin de conduire à l'inaction, il ne s'agit pas de se dire ça y est, on est dans le meilleur des mondes possibles, tout va bien, réjouissons-nous, et on attend que ça se passe. C'est évidemment tout le contraire, puisque le meilleur n'adviendra pas sans que les esprits, les agents, ne fassent ce qu'il faut pour que ce meilleur advienne. Il ne va pas advenir, hein. La fin, au sens du but, n'adviendra pas sans ses moyens, hein. C'est-à-dire sans que les esprits, notamment les hommes que nous sommes, de travaillons à ce que ce meilleur advienne. Donc ce n'est pas un meilleur qui arrive comme ça. Il n'y a pas chez Leibniz quelque chose comme une sorte de fin de l'histoire qui serait le moment où le bien ou le meilleur arriverait. On y est déjà, si je puis dire, pour Leibniz. On est dans le meilleur des mondes possibles. Mais comme je vous ai dit que c'est pas, il n'est jamais... complet, entier, à un moment donné, mais c'est pris dans sa totalité, dans tous les temps, dans tous les lieux, qu'il est le meilleur. Ça veut dire qu'à aucun moment, il est à la fois, on est déjà dedans, et en même temps, aucun moment du monde n'épuise ou n'est complètement le meilleur. Il lui manque toujours quelque chose, puisqu'encore une fois, c'est la totalité qui est le meilleur. Et donc, pour que ce meilleur advienne, se poursuive, et même que l'on aille, si on est dans un progrès ascendant, ben il faut que les créatures que nous sommes, y travaillent. Et donc, là, l'éthique leibnizienne, si on peut la résumer en quelques mots, ce qui est évidemment un peu difficile, mais pour le dire en quelques mots, c'est tout le contraire de l'inaction et de la paresse. C'est pas rester dans une sorte de fatalisme en se disant on est dans le meilleur des mondes possibles, quoi qu'on fasse, le meilleur adviendra. C'est au contraire d'y travailler et de faire en sorte. Donc il y a des pages tout à fait étonnantes d'un Leibniz très, on dirait aujourd'hui, volontariste, même si ce n'est pas tout un terme philosophiquement avec lequel il faut être très prudent, notamment en regard de Leibniz, mais qui engage véritablement à penser l'action et qui n'est pas simplement dans une perspective de métaphysicien, mais qui pense toujours le rapport entre la théorie et la pratique. Et donc, cette thèse du meilleur des mondes possible doit déboucher sur une réforme des choses, à la fois sur le plan moral, se réformer soi-même pour travailler au meilleur, mais aussi avec des développements qui sont au sens large politiques, hein, notamment dans cette Europe que Leibniz connaît et qui est une Europe où l'Allemagne est totalement divisée, je vous ai dit les conséquences de la guerre de 30 ans, et où il y a la puissance, l'époque où la puissance française est dominante, fait la loi sans qu'il y ait un équilibre des puissances qui permettrait une certaine prospérité des peuples européens. Mais je laisse de côté cet aspect. Alors, si vous le voulez bien, ce que je voudrais maintenant, un peu, après ce... Alors, effectivement, j'évoque en deux mots la conclusion. Alors, la conclusion de l'ouvrage, elle vise au fond à essayer d'étudier la fortune de ce que l'on appelait l'optimisme. Parce que ce qui s'est passé, c'est que la Théodicée dont je vais parler, donc les essais de Théodicée, texte de Leibniz paru en 1710 à Amsterdam, c'est un texte dans lequel ce dont je viens de vous parler est exposé, la thèse du meilleur des mondes possible et la justification de Dieu à l'égard de l'existence du mal, fait l'objet de ce texte. C'est un texte qui a eu un succès mitigé, mais peu importe, c'est dans l'histoire de la philosophie un des grands textes. Alors je sais bien que c'est un peu facile de déclarer grand texte, parce que ça veut dire que s'il y a des grands textes, il y a des textes qui ne sont pas grands. Mais c'est un texte qui a véritablement marqué l'histoire de la philosophie, véritablement marqué, qui est à la charnière entre 17e et 18e siècle, qui est en 1710, donc c'est le début du 18e siècle, mais qui est au fond le dernier présent du 17e siècle au 18e siècle, si je puis dire, et c'est une œuvre tout à fait magistrale. C'est une œuvre tout à fait magistrale. Et ce texte a eu une certaine fortune au 18e siècle. Alors celle que vous connaissez, c'est celle dont j'ai parlé au début, c'est ce que Voltaire va en faire dans Candide ou l'optimisme. Mais ce qui m'a intéressé, ce n'est pas tellement Voltaire, c'est ce qu'il y a avant, c'est-à-dire la première réception du texte, des essais de Théodicée. Et notamment celle qui a été faite par les jésuites. Parce que les jésuites en France, au XVIIIe siècle, ont une place tout à fait importante dans le paysage intellectuel. Ils forment les esprits, non seulement par leur activité pédagogique dans les collèges, mais aussi plus largement, c'est-à-dire que les livres qui sont recensés par les jésuites sont lus, sont commentés. Bon. Et donc, ce sont les jésuites qui vont inventer le terme optimisme. Voilà. Et ils vont associer la doctrine de Leibniz à l'optimisme. Alors, ils vont ranger Leibniz et d'autres auteurs. Mais donc, le terme optimiste qu'on utilise dans le langage courant, pour désigner d'ailleurs autre chose, on ne pense plus à Leibniz, mais ce sont les jésuites qui ont inventé le terme. Et dans les mémoires de Trévoux, qui était l'organe où étaient recensés les livres, eh bien, il y a un article assez sévère des jésuites qui associe la doctrine de Leibniz à l'optimisme. à l'optimisme. Et donc j'étudie le devenir de cette thèse et de son interprétation jusqu'aux encyclopédistes, jusqu'à Diderot, qui vont en gros reprendre l'interprétation des jésuites avec des changements et des inflexions qui sont intéressantes à relever pour comprendre au fond comment les philosophes des Lumières ont lu non seulement la théodicée mais la mythe, la manière dont ils comprennent. Alors, ce que je vais aborder maintenant, c'est la théodicée comme telle. La théodicée, le terme est cette théodicée. Alors, la théodicée, c'est un néologisme que Leibniz a inventé. Théodicée, donc de théos, qui signifie Dieu, et diké, en grec, c'est la justice. Théodicée, ça veut dire, au sens strict, justice de Dieu, la théodicée. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il a donc intitulé son œuvre parue en 1710, Essai de théodicée. Et le mot théodicée n'apparaît que dans le titre. Hein, vous ne le trouvez pas ensuite. Alors, ce mot de théodicée est intéressant parce que donc c'est un néologisme et c'est un terme qui, après Leibniz, qui va être repris dans la tradition philosophique parce qu'on va parler de théodicée hegélienne, théodicée, et Kant va parler de théodicée, etc. Donc, ça va devenir un nom commun. Un nom commun et même, ça va désigner un certain genre philosophique, hein, si je puis dire, un genre philosophique qui vise qu'est-ce qui vise quoi ? D'une manière très simple, je vais vous donner la définition qu'en donne Kant, qui est la, au fond, définition la plus classique. La théodicée, qu'est-ce que c'est, dit Kant ? C'est la défense de la très haute sagesse du Créateur contre les reproches que la raison lui adresse au sujet des malfaçons du monde. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est la tentative rationnelle de défendre la bonté, la justice de Dieu contre l'objection que constitue le fait du mal. Comment le mal est-il possible sous un Dieu que l'on prétend bon, juste, tout-puissant ? Donc, la manière dont la question du mal, alors je vais y revenir dans un instant, mais j'indique déjà, la manière dont Leibniz pose la question du mal, c'est dans un contexte particulier. C'est pas pourquoi il y a le mal comme ça, c'est pourquoi y a-t-il le mal, ou d'où vient le mal, ou qu'est-ce que le mal ? Ces questions-là, elles intéressent Leibniz, bien sûr. Mais la manière dont le sujet est abordé, c'est pourquoi le mal sous un Dieu bon ? Sous un Dieu bon et sous un Dieu juste et puissant. C'est-à-dire que, et on retrouve une question tout à fait ancienne, qui est la question qui est posée par Lactance dans un texte intitulé « De la colère de Dieu ». Lactance, donc c'est un, pour ceux qui ne connaissent pas Lactance, c'est un théologien et un rhéteur du 3e, 4e siècle, qui, dans ce texte intitulé « De la colère de Dieu », renvoie à Épicure. Épicure serait l'auteur de l'exposé du problème, qui est le problème de la théodicée, si je puis dire. Et quel est le problème de la théodicée, fondamentalement, le problème philosophique ? Épicure le pose de la manière suivante. Épicure dit, et c'est un problème insoluble, donc Lactance rapporte la manière dont Épicure pose le problème du mal sous un Dieu bon. Et voilà ce que aurait dit Épicure. Soit Dieu veut empêcher le mal, et il ne le peut pas, puisque le mal existe. Donc le mal existe, soit Dieu a voulu l'empêcher, mais il n'a pas pu, soit il n'a pas pu l'empêcher. Soit Dieu donc, a voulu empêcher le mal, et il n'a pas pu l'empêcher, soit il pouvait empêcher le mal, mais il n'a pas voulu l'empêcher, ou bien encore, il ne voulait pas empêcher le mal, et il ne pouvait pas empêcher le mal. Ou encore, quatrième possibilité, il voulait empêcher le mal et il pouvait empêcher le mal. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans tous les cas, c'est la solution, on n'a pas de solution, parce que si vous dites il voulait empêcher le mal, mais il ne pouvait pas le faire, ça veut dire que Dieu est impuissant. Et donc, s'il est impuissant, ce n'est plus Dieu. Vous êtes obligé de retirer un attribut à Dieu. ça va pas. Sinon, vous dites, il pouvait empêcher le mal, mais il voulait pas. S'il voulait pas, alors il était pas bon. Et là, c'est le deuxième attribut de Dieu qui est écarté. Alors, soit c'est pire, et vous dites, il voulait le mal et il pouvait l'empêcher. Alors là, il est non seulement méchant, mais il est impuissant. Donc là, vous cumulez les... Bon. Donc, c'est une manière de poser... D'ailleurs, soit dit en passant, cette manière de présenter le problème de la théodicée, si je puis dire, par Épicure, qui rapporté par Lactance, c'est toujours de cette manière-là, même dans la philosophie contemporaine, que les choses sont posées. Alors, c'est proprement un dilemme, si je puis dire, sauf que dans un dilemme, normalement, il y a deux thèses, mais bon, peu importe. C'est un dilemme, c'est insoluble. Si vous voulez, vous ne pouvez pas conserver la thèse « Dieu est bon, Dieu est tout-puissant, le mal existe ». Voilà, dit Épicure, vous êtes obligé d'abandonner une des thèses. Et d'ailleurs, petite parenthèse, dans un texte célèbre que vous connaissez peut-être, de Hans Jonas, le concept de Dieu après Auschwitz, Jonas dit il faut abandonner la toute-puissance, justement. Lui, il résout le problème de cette manière-là. Il dit laissons tomber l'attribut de puissance. Bon. Alors, qu'est-ce que fait Leibniz? Vous avez deviné, il va évidemment abandonner ni la puissance, ni la bonté, la justice. Et donc, la gageure des essais de Théodicée, c'est de prétendre résoudre le problème sans abandonner les attributs classiques attribués à Dieu, toute puissance, bonté infinie et justice, et pourtant existence du mal. Parce que vous allez me dire, mais il y a peut-être un moyen commode de sauver, de justifier Dieu, ça pourrait être de nier le mal. Et d'une certaine façon, une certaine tradition, notamment la tradition stoïcienne, a cherché à, au fond, essayer de minimiser le mal en disant le mal n'est pas vraiment un mal parce que le mal, en fait, un mal peut permettre un bien, ou bien ce qui nous apparaît un mal peut être, en fait, vu d'un autre point de vue, quelque chose qui est un bien ou un bien moindre, un moindre bien, au fond. C'est rien d'autre qu'un mal. Bon. Des stratégies argumentatives pour minimiser la portée du mal. Pour au fond dire, mais le mal n'est pas vraiment un mal. Bon. Et là aussi, c'est là où on peut faire crédit à Leibniz d'avoir pris au sérieux l'objection. C'est-à-dire que non seulement il veut garder l'attribut de toute puissance, l'attribut de justice et de bonté, mais il n'est pas question de nier la réalité du mal. Je veux dire, bon. Alors bien sûr que Leibniz, et vous avez dans la Théodicée des passages dans lesquels il dit il y a certains mots qui ne sont pas véritablement des mots. Il y a des douleurs qui sont... c'est la potion désagréable du médecin qui vous donne, où il faut amputer le membre qui est malade, mais c'est un mal, bien sûr, mais c'est pour sauver le reste du corps. Bon. C'est un mal, certes, mais c'est aussi un moindre, ou plus exactement, c'est un moindre mal au regard d'un mal pire. Bon. Donc, bien sûr, vous retrouvez ces arguments dans Leibniz, mais il y a l'idée de considérer que le mal ne doit pas être nié dans sa réalité. Pourquoi ? Parce que, fondamentalement, pour Leibniz, ce qui est véritablement le mal, c'est l'injustice, c'est le mal moral. Dans la Théodicée, au paragraphe 21, Leibniz fait une distinction extrêmement intéressante, importante, entre trois sortes de mots. Il dit, au fond, il y a une pluralité de mots. On peut les regrouper sous trois espèces. Première espèce, c'est ce qu'il appelle le mal métaphysique. Le mal métaphysique, c'est l'imperfection en général, l'imperfection, toute imperfection, tout défaut. Et il prend volontairement un sens général, hein, tout défaut. Et au fond, nous sommes tous entachés de mal métaphysique dans la mesure où nous n'avons pas une connaissance infinie, nous n'avons pas une toute-puissance, nous n'avons pas... Donc, tout ce qui fait notre finitude relève du mal métaphysique. Deuxième sorte de mal... C'est le mal véritable, si je puis dire, ou le mal authentiquement mal, c'est le mal moral, c'est la faute. Hein, c'est ce qu'en langage théologique on appelle le péché, et même dans le langage philosophique, le péché, la faute, l'injustice. Hein. Et troisième sorte de mal, c'est le mal physique, c'est-à-dire la douleur. Douleur et souffrance, puisque l'Église nous confond, met ensemble les deux, c'est-à-dire à la fois ce qu'on appelle la douleur physique, mais aussi ce qu'on appelle aujourd'hui la souffrance ou la douleur morale, hein, la tristesse. Alors, ce qui est original chez Leibniz, c'est non seulement dans sa manière de vouloir tenir d'un côté les attributs de Dieu, et puis de l'autre l'existence du mal, qu'il faut bien donc distinguer dans les trois sortes que j'ai indiquées. La manière dont, ce qui est original, je disais, oui, c'est la manière dont il va aborder le problème, dont il va traiter ce problème, le problème que Épicure a si bien mis en exergue. Ce problème, c'est celui de l'injustice. C'est celui de l'injustice, le mal moral, donc à la fois comme injustice commise, c'est-à-dire quelque chose fait contre la loi naturelle ou contre la loi en général, mais aussi l'injustice subie. Donc ce qui est au fond scandaleux, si je puis dire, parce que Leibniz n'est pas un auteur qui a dramatisé le mal par rapport à d'autres auteurs, par exemple Pascal, même Augustin, Pascal ou d'autres, qui sont des auteurs qui ont, ou Luther, hein, puisque j'aurais dû le dire au début, c'est la confession religieuse à laquelle Leibniz s'est attaché. Alors, bon, dans quelle mesure il était intimement luthérien, ça c'est une autre histoire. Mais il n'est pas du côté de ces auteurs qui dramatisent la prégnance, l'étendue du péché dans le monde, que les hommes, tous les hommes sont mauvais, que le monde est rempli d'injustice et de maux, etc. Bon. Donc, il n'est pas du tout dans cette dramatisation, dans cette exagération. Mais il y a quelque chose qui, pour lui, fait véritablement problème. Ce qui est véritablement choquant, ce n'est pas tellement qu'il y ait de la douleur dans le monde, qu'il y ait de la misère, et même qu'il y ait des méchants. Ce qui est véritablement scandaleux, et ce qui pose problème aux philosophes, selon Leibniz, c'est que l'ordre de la justice semble inversé. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ce qui pose problème philosophiquement, c'est que le juste ou l'innocent soit frappé par le malheur ou soit persécuté, et que le méchant, le vicieux, le réussisse, prospère. Bon, c'est la prospérité des méchants et c'est la persécution de l'innocent ou du juste qui pose problème. C'est-à-dire, au fond, ce qui est problématique, c'est un ordre de la justice qui est complètement inversé. C'est qu'au fond, d'une certaine façon, il n'y aurait pas de problème du mal, pour Leibniz, si le méchant était puni, tous les méchants étaient punis, et tous les vertueux et les hommes justes étaient récompensés. Pour dire, je dis un peu de manière un peu forcée, mais au fond, il n'y aurait pas de problème du mal. Parce qu'on dirait, voilà, lui, il a mal agi, il est puni. Bon, ben voilà, c'est dans l'ordre des choses. Celui-là, il est vertueux, eh bien, il est heureux, ou il est récompensé, ou bon. Ce serait l'ordre des choses. Et donc, il n'y aurait pas de problème du mal, au fond. Je force un tout petit peu le trait, mais c'est... Ce qui pose problème, c'est l'image, encore une fois, de cet ordre des choses, qui est un ordre des choses inversé, et dans lequel, et qu'il faut donc, dont il faut rendre compte, qu'il faut expliquer, parce que non seulement Dieu est bon, mais il doit être juste. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Dieu ne fait pas en sorte que le juste soit toujours récompensé et que le méchant soit toujours puni? Alors, ce qui est intéressant, du coup, c'est qu'on a une approche de la question du mal, c'est en cela qu'elle est particulière, sinon originale. On a une approche juridique, ou en, C'est ce qui le masque pose problème au regard de la justice. C'est pour ça que, j'en reviens à ma question, c'est de savoir, c'est la raison pour laquelle c'est une théodicée. La question du mal va être réglée, doit être traitée par une théodicée, c'est-à-dire seule une doctrine de la justice de Dieu doit permettre de rendre raison de l'existence du mal, parce que l'existence du mal n'est problématique qu'au regard de cet ordre juste inversé dont je viens de parler. C'est pour ça qu'il écrit une théodicée, pas autre chose. Parce que fondamentalement, ce qu'il faut régler, c'est cette discordance. C'est cet ordre du monde qui semble pas du tout ordonné, justement, alors qu'en plus, on est dans un contexte où Dieu est présenté comme non seulement bon, tout-puissant, mais juste, et donc il faut... Donc c'est dans ce cadre-là que la question du mal va être traitée, et la façon dont Leibniz va la résoudre, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que je vous laisse, pour ceux qui ne connaissent pas le texte de Leibniz, vous y plongez, mais la question du mal va être rapportée donc à la question de la justice, et particulièrement à la question de la justice de Dieu, parce que Dieu est en cause. Dieu est accusé. Hein. D'ailleurs, l'image du tribunal, c'est Leibniz qui la donne, hein, dans la préface. Il dit que dans ce texte, c'est la cause de Dieu complète. Hein, c'est la cause de Dieu complète. Il se présente comme un avocat. Alors c'est très, très curieux comme manière de présenter, comme l'avocat de Dieu. L'avocat. Alors, l'avocat devant qui? Pas devant les hommes, parce que bon... Mais l'avocat devant la raison, c'est le tribunal de la raison, c'est une question philosophique. C'est-à-dire que tout homme doué de raison, devant le mal, est amené à s'interroger et demande des comptes à Dieu. C'est un peu... c'est une autre figure que celle de Job à laquelle certains d'entre vous pensent. C'est un peu différent, mais il y a parce que le livre de Job présente les choses autrement, dans un autre contexte. Mais la manière dont l'ami suit présente les choses, c'est Dieu est en quelque sorte amené à se présenter devant le tribunal de la raison et au regard du mal, rendre raison de pourquoi alors qu'il peut l'empêcher. Alors qu'il est, il peut l'empêcher alors qu'il est bon, pourtant le mal existe. Et donc, Dieu est mis en cause au regard de son attribut de justice, mais l'attribut de justice entend qu'il est pris en deux sens. Comme vous le savez, la justice, elle a deux sens. Le sens d'une vertu, quand on dit d'un homme qu'il est juste, donc il est doué de la vertu de justice, c'est-à-dire il a un sens de l'équité, il sait rendre à chacun son dû, ce genre de choses. Mais c'est aussi la justice, c'est aussi une institution, hein, aussi une institution, la justice. C'est-à-dire la justice en tant que droit, en tant que loi, en tant qu'ordre. Bon. Eh bien, pour ce qui est de la justice divine, c'est la même chose. Hein. Il faut prendre l'expression de justice de Dieu également dans ces deux acceptions. C'est-à-dire la justice de Dieu, c'est à la fois Dieu en tant qu'il est juste, c'est-à-dire, pour Leibniz, en tant qu'il est éloigné de tout mal, hein, il est saint, dit-il, hein, il est suprêmement juste, il est saint et il est éloigné de toute pensée mauvaise. Et il est juste aussi au sens où il gouverne le monde. Il gouverne le monde. Et c'est-à-dire, c'est lui qui assure le respect des lois de la justice. Et si vous voulez, la justice de Dieu est mise en cause dans les deux sens, dans ces deux sens. C'est-à-dire que, alors on a vu pour le second sens, c'est-à-dire Dieu, au regard, comme il est censé ordonner le monde, gouverner le monde en selon les lois de la justice, pourquoi l'innocent est-il persécuté, pourquoi l'homme bon est persécuté, etc. Et pourquoi les méchants prospèrent-ils. Mais également, la justice de Dieu est concernée, mise en accusation dans le sens de la vertu, dans le sens où Dieu est saint, parce que pour Leibniz, et pour d'autres philosophes d'ailleurs de l'époque, eh bien, Dieu ne se contente pas de créer le monde au premier jour, puis il regarde ce qui se passe, si je puis dire, en spectateur, mais compte tenu du fait que le monde dépend toujours de Dieu, de sorte que, comme disait Descartes et bien d'autres d'ailleurs avant lui, la conservation du monde n'est qu'une création continuée. C'est-à-dire que pour que le monde subsiste toujours, hein, il faut que Dieu à chaque instant apporte sa puissance. Hein. C'est-à-dire si tout d'un coup la puissance de Dieu se retirait, le monde serait réduit à néant immédiatement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça, du point de vue du mal, ça pose problème. L'homme qui commet le mal, si un homme vient en frapper un autre, la puissance dont use l'homme pour en tuer un autre, c'est une puissance qui lui vient de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Donc, lorsque le criminel accomplit son crime, c'est Dieu qui agit par lui, puisque non seulement notre être, mais toute notre puissance vient de Dieu. Donc, le concours de Dieu aux actions de ses créatures l'engage, si je puis dire, ou en tout cas pose le problème de la responsabilité de Dieu. Dans quelle mesure il n'est pas complice de toutes nos actions mauvaises. Donc, si vous voulez, c'est la raison pour laquelle, dans cette théodicée, c'est pas simplement pourquoi cet ordre du monde est-il en apparence déréglé, ou en tout cas dans lequel les méchants prospèrent, ou en tout cas nous avons des crimes qui adviennent sans que la justice ne soit respectée, mais aussi, de manière tout aussi fondamentale, comment Dieu, par son concours, peut-il contribuer au mal, à sa réalisation, à son accomplissement dans tout acte mauvais. Et donc, ce à quoi Leibniz va s'attacher dans les essais de Théodicée, c'est de montrer d'une part, au regard du concours, que certes Dieu concourt à toutes nos actions, mais que l'homme n'en est pas moins responsable pour un certain nombre de raisons, et que s'il a la puissance d'arrêter, le mal, de l'empêcher, il ne le fait pas, non pas parce qu'il veut le mal, mais parce qu'il le permet. Toute une théorie, évidemment, de la permission du mal. La permission du mal, alors, ça me permet de venir... Alors, je ne sais pas si j'ai peut-être un peu trop parlé.
Je pense comment... Bon, je vais pas conclure. Exactement commencer.
Oui,
on a encore au moins 5 minutes.
Oui, voilà, j'ai rentré quelques... Alors, on regarde donc justement de cette affaire de concours, oui, de concours aux actions criminelles. Voilà ce que dit Leibniz. Il dit au fond, c'est pas parce que Dieu peut empêcher le mal qu'il doit l'empêcher. Et au fond, c'est tout l'enjeu de cette thèse du meilleur des mondes possible, c'est que fondamentalement, bien sûr que vous prenez n'importe quel mal, on n'a pas besoin d'ailleurs de prendre des mots extrêmes, hein, il y en a des plus terribles que d'autres, ou des plus impressionnants que d'autres, mais n'importe quel mal pris, bien sûr que pour chaque mal qui est produit, on peut se dire Dieu aurait pu l'empêcher. Il aurait pu l'empêcher, mais qu'est-ce que ça veut dire l'empêcher ? Qu'est-ce que ça veut dire l'empêcher ? Ça veut dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, s'engager sur une autre voie vers un autre monde. C'est-à-dire que, compte tenu de la définition du monde que donne Leibniz à l'article 8 de la Théodicée, le monde, c'est un ensemble de choses qui forment un tout cohérent et parfaitement unifié, de sorte que chaque élément est à sa place et interagit avec les autres, dirons-nous aujourd'hui. C'est-à-dire que la connexion de toutes les choses dans le monde leibnizien est telle que si vous changez la moindre le moindre des événements, si vous changez, si vous remplacez un être par un autre, c'est plus le même monde. Non seulement c'est plus le même monde, mais ça entraîne des conséquences absolument, absolument différentes. De sorte que vous pouvez parfaitement penser, alors la limite, il y a plusieurs exemples qu'il prend, mais prenons un exemple qu'il ne prend pas dans la Théodicée, mais dans le discours de métaphysique. César franchit le Rubicon. Exemple tout à fait célèbre. Vous savez, après la guerre des Gaules, César revient à Rome en général victorieux. Et le Rubicon, c'est ce fleuve qui marquait la limite entre la ville de Rome et ce qui n'était pas la ville de Rome. Et autrement dit, si un général d'armée entrait avec son armée et ses armes au-delà du Rubicon, eh bien, c'était un acte de guerre. C'était une manière de mettre au défi le Sénat romain. Et donc, César arrive, il y a le Rubicon qui forme la frontière, et bon, il y a un petit moment d'hésitation. Si je passe, c'est renversement de la République. Bon. Si je m'arrête là et que je me soumets au Sénat, bon, c'est une autre histoire. Et donc, comme vous le savez, César franchit le Rubicon. Mais il y a un monde possible. Il y a un monde possible dans lequel César ne franchit pas le Rubicon. Si vous voulez, vous pouvez concevoir, donc, imaginons deux mondes parallèles, qui ont en commun tout ce qui se passe jusqu'à César arrivant devant le Rubicon, mais qui ne diffèrent que par cet événement. Dans un cas, il franchit, dans l'autre cas, il ne franchit pas. Eh bien, cet événement, alors évidemment, on prend un événement qui a une importance mondiale, donc bon. Mais à partir de cette petite différence, vous allez avoir, en fait, deux mondes radicalement différents qui vont se déployer. Et en réalité, cette différence, alors elle n'était pas visible avant que César ne franchisse Rubicon, mais elle était déjà là. Parce que au moment où César a choisi, il a choisi pour certaines raisons prévalentes, hein, c'est-à-dire que son ambition le portait à franchir le Rubicon, donc il était déjà, il était différent du César qui se serait soumis à Rome et qui aurait dit, bon maintenant, après cette guerre des Gaules, je prends ma retraite et vous n'entendez plus parler de moi. Donc déjà, c'est pas le même César, c'est ça que je veux dire. Donc, nous avons deux mondes, imaginons, qui sont à peu près les mêmes jusqu'à l'événement César franchit le Rubicon, et qui ensuite vont diverger, mais diverger de telle manière qu'en réalité, ce sont deux mondes radicalement différents. Eh bien, ce qui vaut pour César franchit le Rubicon, ça vaut pour n'importe quel événement du monde. Même l'événement le plus anodin. Même les événements le plus anodin. De sorte que cette liaison de toutes les choses fait que Lémite se dit bien sûr que, prenons la guerre de 30 ans, ça aurait, bien sûr que individuellement, il aurait mieux valu qu'il n'y ait pas de guerre du tout, c'est certain. Mais s'il n'y avait pas eu de guerre, c'est un autre monde. C'est un autre monde. Et alors, comme il dit, tout compté, tout rabattu, tout pris ensemble, le monde dans lequel il y a la guerre de 30 ans est meilleur que celui dans lequel il n'y a pas la guerre de 30 ans. Alors, comment peut-il dire une chose pareille? Eh bien, en disant, c'est parce que c'est celui-là que Dieu a choisi. C'est celui-là qu'il a choisi. Celui dans lequel. Et il a choisi pour une raison. Précisément parce que c'était le meilleur. Donc, le fait qu'il y ait la guerre de 30 ans dans notre monde, la guerre de 30 ans reste un événement terrible, reste un événement. Le mal reste un mal, même s'il est dans le meilleur des mondes possibles. Ça ne change pas sa nature. Mais, pris avec le reste des choses, à une échelle que seul Dieu, évidemment, peut avoir, il fait partie de ce monde que Dieu a choisi. Alors, dans les deux minutes qui restent, je dirais simplement que... ce qui est fascinant, sans doute qu'on aura l'occasion d'en parler peut-être aussi à l'occasion du colloque sur le principe de raison, c'est chez Leibniz, Ce qui est tout à fait fascinant, c'est au fond la manière dont il prend une question, la question du mal, qui m'a intéressé particulièrement, mais il y en a d'autres qui sont passionnantes chez Leibniz, une question qui est à la fois extrêmement sensible, j'allais dire. C'est-à-dire que c'est une question à la fois philosophique, mais c'est une question que chacun d'entre nous est amené, à laquelle on est forcément confronté, même si on ne la pose pas forcément de la même manière que Leibniz la posait, puisque on ne la pense pas forcément au regard d'un dieu. Il la pose d'une certaine manière, en certains termes. Mais si vous voulez, même s'il la pose au regard de la question de Dieu, il ne faudrait pas dire, au fond, la question de la théodicée, elle est purement historique, puisqu'aujourd'hui, bon, bien sûr que la question de Dieu n'a pas disparu, mais ce n'est pas une affaire de foi, en fait. Ce n'est pas une affaire de foi, cette histoire. Pourquoi ? Parce que ce qui intéresse Leibniz, le Dieu de Leibniz, bien sûr que le Dieu de Leibniz, c'est forcément aussi le Dieu de l'écriture. Mais c'est le Dieu des philosophes, d'abord et avant tout. Qu'est-ce que c'est que Dieu ? C'est la raison avec un grand R. C'est la raison. Donc la question, fondamentalement, c'est la question du mal telle que Leibniz la pose. Ce n'est pas une question simplement d'un chrétien qui se dit « comment c'est donc possible ?» C'est la question que se pose quelqu'un qui est doué de raison. Pour tout être doué de raison, il faut rendre raison de ce mal que nous rencontrons nécessairement. Il faut bien en faire quelque chose. La raison demande des comptes. Voilà, la raison demande des comptes. Et donc c'est la raison pour laquelle il faut, bien sûr que pour ceux qui ont lu ou liront, dans la manière de présenter les choses, on se dit, c'est à la fois une question contemporaine, mais il y a un contexte historique qui est indéniable, et notamment de cette théologie issue du christianisme. Mais il faut bien penser, quand on lit Dieu, c'est un Dieu rationnel que Leibniz vise. Et en dernière instance, c'est l'affaire de la raison. Ce n'est pas tant une affaire de foi qu'une affaire de raison dans la question de la théodicée. Je vous remercie.
À bientôt. Merci.
Merci. Merci. Merci.